Nous n'avons qu'une soirée. C'est peu pour... trouver... C'est tellement large, tout ce que la pensée peut créer pour exprimer ce qui est tellement simple. C'est un instant tranquille de lâcher prise où il n'y a pas grand-chose. Et puis après, la pensée, elle peut tellement élaborer pour dire juste ça. Je suis là, il y a le corps, il y a l'espace, le silence, c'est paisible. Le problème, c'est que c'est pas toujours comme ça. Et que si nous sommes là, c'est pour fortifier la conscience de manière à entrer vraiment en contact avec cette force intérieure de présence. Parce que la présence, c'est l'expression de la sagesse. Et l'éveil, à quoi est-ce que nous nous éveillons? Nous nous éveillons à... C'est l'avant, c'est la période de l'avant. Et l'avant, c'est cette gestation qui mène à la naissance d'un enfant. Et c'est ce que nous faisons ici. Nous nous mettons en lien avec quelque chose qui est différent du moi incarné, visible. Nous nous mettons en lien avec cet enfant intérieur, avec ce cœur de l'être. Et nous le faisons naître, et nous ne le faisons pas naître une fois pour toutes. Nous le faisons naître sans cesse. Juste maintenant, à chaque fois que je suis dans un moment de conscience, je me mets en lien avec cette autre naissance, cette naissance à la conscience elle-même. C'est pour ça que j'aime bien ce temps de l'avant. Nous sommes là pour être présents et c'est pas, l'intention n'est pas suffisante, mais ça demande un effort, ça demande un certain travail intérieur. Et la première chose, c'est cette présence au corps. Et je trouve intéressant que, puisque c'est l'avant, je fais de temps en temps des relations avec la vie de Jésus. C'est intéressant de voir comment, par l'image, Jésus nous montre exactement ce que le Bouddha propose. C'est-à-dire d'être dans l'inaction ou dans le lâcher-prise par rapport à l'expérience. Et quand l'expérience est très douloureuse, de ne rien faire, de laisser faire. Et la conséquence, lorsque nous nous laissons crucifier, c'est la résurrection. Et quand je pensais à cette, voilà, ce retournement, on pourrait dire, on parle dans les textes bibliques de la résurrection du corps. Et pour le Bouddha, la présence corporelle, c'est celle qui est fiable. Lorsque la présence corporelle est là, nous ne pouvons pas partir dans nos obsessions mentales. C'est une sorte de refuge qui garantit que nous gardons un lien à notre enfant intérieur. Nous ne nous laissons pas piéger totalement dans l'aveuglement. le corps prioritaire. Vous y êtes juste maintenant? Et pourquoi est-ce que ce corps, cette présence corporelle est tellement importante? C'est que tout notre système de défense, toutes nos protections émotionnelles, ce qui éveille la colère ou la peur ou la tristesse, sont ressentis d'abord dans le corps. Alors, si nous n'avons pas travaillé la présence à l'instant, nous n'allons pas sentir ce premier impact corporel. Nous allons sentir d'abord la pensée les projections ou l'élaboration du problème. Mais si nous regardons finement, si nous sommes suffisamment ancrés dans la présence, nous pouvons sentir comment c'est d'abord le corps qui se contracte. Et après, je peux dire, ah ben j'ai peur, ou bien ah ben je suis inquiète, ou bien je m'ennuie, ou bien je sais pas ce que vous dites, ce qu'on se dit quoi. Donc, nous pouvons conscientiser le corps de plusieurs manières différentes. D'abord, avec la respiration. C'est un très bon, c'est extrêmement paisible lorsque nous pouvons vraiment laisser le corps respirer. Il n'y a aucune interférence. La conscience peut se poser, rester sur ce début et cette fin de l'inspire, ce début et cette fin de l'expire, ce temps de pause, et ça recommence. La posture, nous sentons tout le corps, la place qu'il prend dans l'espace. Dans l'exercice de la méditation, nous pouvons faire les scans corporels qui sont beaucoup, dans certaines traditions, prioritaires. De juste aller dans chaque partie du corps, ramener la conscience et sentir comment nous rendons ce corps vivant en le reconnaissant. C'est une manière de le reconnaître, de lui donner du soin, de le guérir. Non pas pour le maintenir toujours en santé, ça n'est pas, c'est pas possible, mais pour l'accepter tel qu'il est. Sentir le squelette. Quand je dis moi, je pense jamais à mon squelette. Je dis moi, je pense à moi dans le miroir ou à ce que l'autre pense de moi, ou à... mais moi, moi là, dessous, là, ce qui restera quand il n'y aura plus de vie, qu'il n'y aura même plus de chair, qu'il n'y aura plus rien, que l'aspect minéral. C'est une excellente pratique de se visualiser dans cet aspect-là, minéral. Et bien sûr, quand nous parlons de la conscience corporelle, c'est cette continuité de la présence dans nos activités tout au long de la journée. Et ça, ça fait une bonne différence au niveau d'une préparation du corps pour recevoir l'esprit. Si nous avons en conscience cette continuité. D'une certaine manière, tous ces exercices ne visent qu'un seul but, c'est le lâcher prise, c'est-à-dire qu'au lieu de prendre mon corps comme mon corps, ma propriété, quelque chose qui doit répondre à mes attentes, à mes envies, je le vois comme un corps, c'est un corps. Et le corps des autres, ce sont aussi des corps, ça n'est pas vraiment qui est l'autre, c'est une apparence. Mais le qui suis-je est beaucoup plus large, il est au fond totalement inconnaissable, à part dans l'instant. Le corps, c'est le premier fondement de la présence dont le Bouddha a parlé. Et le deuxième fondement, c'est les ressentis. Ce sont ces ressentis qui commencent dans le corps, qui sont de trois natures, agréables, désagréables ou neutres. Et ça, au niveau psychologique, c'est une simplification précieuse, mais quelquefois difficile à admettre. Parce que nous sommes fascinés par toutes nos émotions. Et de pouvoir dire juste c'est agréable ou c'est désagréable, je me sens beaucoup plus intéressante que ça. Nous ressentons bien sûr les choses au niveau physique, en lien avec le matériel, ce que nous voyons, ce que nous goûtons, ce que nous entendons, ce que nous sentons par le nez, ce que nous sentons par le corps. Et de nouveau, lorsque nous disons juste agréable ou désagréable ou neutre, le but recherché, c'est de voir que ce ne sont pas mes ressentis, ce sont des ressentis. Quelque chose se désapproprie l'expérience et alors la conscience se dégage. Il y a des ressentis par rapport au cœur, la sensibilité. Nous pouvons être touchés par ce que l'autre nous dit, ce que nous pensons. Et le cœur s'ouvre si c'est quelque chose qui nous fait du bien, si c'est quelque chose qui a trait à l'appartenance, à la non-séparation. Et nous pouvons sentir le cœur qui se contracte. Si au contraire nous sommes blâmés ou rejetés ou pas appréciés. Donc au niveau affectif, nous pouvons bien sentir comment il y a cet agréable et ce désagréable, et qu'il est touchant, qu'il est profond, qu'il est délicat et subtil. Et au niveau mental, nous avons des pensées que nous aimons bien, qui sont très agréables. Et nous avons des pensées qui sont redoutables, qui peuvent être monstrueuses. Et c'est pareil chez l'autre. Le propre d'une pensée douloureuse, c'est que nous la prenons pour vraie et nous créons un moi qui est vraiment comme ça, ou un toi. Un autre. Et de voir simplement c'est une pensée agréable, c'est une pensée désagréable, crée de nouveau ce détachement ou ce dégagement plutôt de la conscience par rapport aux pensées. Ce ne sont plus mes pensées, mais ce sont des pensées. Elles ont une réalité dans l'instant, mais en même temps, je peux les voir. Je ne suis pas totalement emprisonnée à l'intérieur si je fais ce travail. Et au niveau spirituel aussi, il y a des ressentis agréables ou désagréables. Nous pouvons avoir dans une retraite ou dans nos vies des expériences spirituelles très puissantes. Et c'est plus difficile de se dégager totalement de celle-là. Waouh, mais je suis éveillée. Ah, oh, super. Alors que c'est juste agréable, peut-être très agréable, peut-être extatique. Mais une expérience spirituelle n'est pas l'éveil. Et c'est important de les traiter la même chose que les contacts plus ordinaires, agréables, désagréables, ou neutres. Et le neutre peut être extrêmement bienfaisant. Comme juste maintenant. Les perceptions, c'est une traduction lorsqu'il y a des ressentis presque en même temps, vient la traduction ou la représentation du vécu qui est basée sur notre vie, surtout les souvenirs, tout ce que nous avons construit à l'intérieur, cette complexité extraordinaire de la nature humaine qui fait que je nomme ou je donne sens à l'expérience d'une manière personnelle et unique. Aucun d'entre nous ne donne le même sens à l'expérience. Nous pouvons voir ça, cette construction, nous pouvons la voir chez l'enfant. C'est beau de voir comment l'enfant se construit peu à peu dans cette complexité de la représentation. Et les représentations aussi, lorsque nous les conscientisons, le but c'est de voir qu'elles ne sont pas les miennes. C'est un enchaînement de conditions, de contacts, de rencontres, de moments qui font qu'aujourd'hui je peux vous parler comme je le fais. C'est important de voir comment la nature humaine s'exprime là et que ce ne sont pas mes perceptions ou mes constructions, qu'elles font partie de tous ceux qui m'ont nourri, qui m'ont touché, qui m'ont bercé, qui m'ont rejeté. Aussi, bien sûr, important. Même si le moi n'aime pas ça. Et ce que nous pouvons observer aussi pour pouvoir les lâcher, c'est ce qu'on appelle les sankaras, les pensées, ou ces constructions. Et ces constructions, ce ne sont pas seulement ce que je vous dis maintenant, ces pensées qui se forment et qui viennent à l'extérieur sous forme de paroles, mais c'est aussi tout ce qui pousse derrière à ce que ce soit cette pensée-là qui sorte et pas une autre. Et ça, c'est mystérieux autant pour vous que pour moi. Qu'est-ce qui pousse derrière pour que ce soit ça que je suis en train de dire maintenant? Et ça, c'est ce qu'on appelle les constructions karmiques. C'est-à-dire que c'est une poussée conditionnée, étonnante, qui est basée sur tout mon passé. C'est tout notre passé qui fait que nous pouvons élaborer ces formations mentales. Et c'est aussi simplement la compétence de construction. Nous avons une compétence pour construire. Et de le voir comme ça, c'est important pour une seule raison, je me répète, mais c'est vraiment important, je me répète. C'est pour les mettre à leur bonne place, ces pensées. Ne pas se les approprier, parce que en se les appropriant, nous causons notre souffrance. Donc on pourrait dire que les pensées, c'est quelque chose qui est verbal, mais c'est aussi ce qui est pré-verbal. Cette poussée qui fait que nous construisons de cette manière-là. Et si nous ne mettons pas la conscience dans toutes ces formations qui sont dans l'exercice de la méditation, nous pouvons voir ce qui émerge. Ce sont les anticipations, quand c'est qu'on va manger, quand c'est qu'on va marcher, quand c'est que la cloche sonne. Ce sont tous ces souvenirs, hein, je vais dans les regrets ou les rêves éveillés, les jugements. Tout ça, ça monte en conscience. Et ça ne demande qu'une chose, regarde-moi. Et bien sûr, les pensées de sagesse, les pensées d'investigation. Qu'est-ce que je fais maintenant? Où aller pour bien être là? Et c'est important de savoir où nous mettons notre attention. Est-ce que nous mettons notre attention uniquement dans le contenu de la pensée? Ou bien est-ce que nous mettons aussi notre attention dans simplement le fait qu'il y a des pensées? Et de quelle nature sont-elles? Lorsque nous disons que nous sommes dans un chemin de connaissance, ça n'est pas dans un chemin d'analyse. La connaissance méditative n'a rien à voir avec l'analyse. C'est une connaissance directe, et si c'est quelquefois utile d'aller à l'intérieur du sankhara, de la construction, pour voir que ça fait la 50e fois que je la pense, peut-être je pourrais lâcher, ça peut aider. Ou bien pour voir que, en fait, quand je pense à ça, je suis complètement tendue, je ne suis pas bien du tout. Le chemin de connaissance par rapport au sankhara demande vraiment de se dégager. Le Bouddha prend l'exemple d'une autoroute. Si les voitures passent sur l'autoroute, nous n'allons pas nous mettre sur l'autoroute parce qu'elles vont nous aspirer, nous tuer, nous faire du mal. Mais nous pouvons très bien nous mettre à côté de l'autoroute et voir ces voitures passer. Et c'est au fond ça que nous avons à faire intérieurement. C'est comme nous mettre à côté de toutes ces formations qui arrivent, qui qui arrivent et passent, en fait. Hein. Elles arrivent, on ne sait pas d'où, elles vont, on ne sait pas d'où, où, mais elles arrivent et passent. Et nous pouvons les voir passer, simplement les voir passer. Et ça, c'est un exercice qui est très bénéfique pour nous libérer de cette puissance que les sankharas ont sur le corps et l'esprit. Et de nouveau, lorsque nous ne pouvons pas contempler une pensée parce qu'elle est vraiment obsessionnelle, qu'elle est vraiment lourde, qu'il y a une histoire derrière qui pèse, qui est puissante. Ce qui est fiable et ce qui aide, c'est de venir dans le corps. Comment est le corps? Et là, nous avons quelque chose de plus tangible. Nous pouvons sentir le corps tendu, l'émotion peut être perçue, s'il y a angoisse ou anxiété ou rage, haine. Et c'est vraiment perceptible au niveau du corps. Et c'est complètement différent de venir sentir la confusion dans le corps ou de rester avec l'attention dans ce que la confusion me raconte. La confusion, c'est très désagréable. Mais nous n'avons pas besoin de reproduire sans cesse les pensées confuses. Nous venons dans ce qui est avant la pensée. Qu'est-ce qui crée ces pensées? C'est ce mal-être intérieur. Et si vous faites ça, vérifiez. Il y a comme une jubilation, il y a quelque chose de profondément bon à se laisser juste sentir l'instant. C'est une intelligence consciente. C'est le Bouddha qui dit « Toutes les rivières, tous les ruisseaux se réunissent dans l'immensité de l'océan. Toute sagesse, tout discernement prend ancrage dans l'attention au corps. » Et il y a souvent cette confusion entre un bon karma et la libération. Nous croyons que si nous méditons, c'est pour ne plus avoir de haine, ne plus avoir de jalousie, ne plus avoir de colère ou de découragement. Mais c'est pas du tout ça. Nous méditons pour voir. Nous méditons pour voir, ah, ça se manifeste. Là, ça s'est manifesté. Vipassana. Et alors c'est à ce moment-là qu'il y a comme une inversion de l'énergie ou un retournement. Et au lieu que nous soyons dans mes problèmes, tout d'un coup, oh tiens, tiens, qu'est-ce qu'il y a là? Il y a de l'intérêt. C'est pas que nous nions que l'expérience soit complexe, difficile, douloureuse peut-être, mais c'est que nous ne sommes pas totalement identifiés, attachés, emmêlés, embourbés. La conscience est prête à accueillir. C'est sûr que nous pouvons sentir en retraite comment, lorsque nous avons l'impression de faire bien, que je sais, c'est bon, C'est sûr que c'est très agréable, que il y a une détente possible, qu'il y a une possibilité de sourire aux autres. Mais s'il y a de l'attachement, si je m'agrippe à ce vécu, à cette expérience bénéfique, ça veut dire que je m'agripperai à l'expérience non bénéfique. Ça veut dire que lorsque ce sera différent et qu'au lieu que j'ai l'impression de faire bien, d'être à la bonne place, d'avancer, tout d'un coup, pouf, voilà, vraiment, je pense que je fais là, j'ai le doute, il y a l'impuissance, j'en peux plus, je m'ennuie, je vais y croire, je vais m'agripper à cette perception-là, à ce ressenti-là. La sagesse, c'est une ouverture à l'instant. Ça n'est pas quelque chose qui sait. Il faut toujours se méfier quand j'ai l'impression, oh oui, oh là là, je sais, c'est bon. Ça va faire ça, ça va forcément faire ça. Mais je peux voir, je peux sentir. Quelqu'un demandait la différence entre la soif et l'intention. Le Bouddha a employé deux mots différents. L'intention, c'est une intention de libération. Ce que nous voulons, c'est que le cœur soit ouvert aux autres, qu'il soit tranquille, humble. Simple. Et lorsqu'il y a la soif, l'intention se dit chanda, c'est un désir, mais c'est un désir, c'est le dernier désir à lâcher avant que nous nous rendions compte que l'ignorance, c'est de la sagesse et que c'est à l'intérieur de nous-mêmes que nous faisons cette différence. Tanha, qui est ce désir d'avoir et de garder, qui est cette fixation d'une bonne expérience, même spirituelle, elle porte la souffrance en elle. C'est une soif qui porte la souffrance en elle. Parce que les choses changent. Les choses sont anicca. Et une expérience spirituelle n'est pas quelque chose que nous pouvons garder. C'est quelque chose que nous pouvons reconnaître, pour laquelle nous pouvons avoir de la gratitude. Et comme la sagesse est là, nous voyons comme toute chose qu'elle a émergé, qu'elle a un temps de vie et qu'elle passe. Comme notre vie. Nous avons émergé, nous avons un temps de vie et nous passons. Et quelquefois, quand je vois la société se débattre avec ce Covid pour absolument vivre, je me dis, mais nom d'une pipe, vivre, bon, mais comment vivre? Comment est-ce que nous voulons vivre? Et lorsqu'il y a cette peur de la mort, il n'y a pas vraiment une bonne vie. Parce que c'est toujours tendu. Peut-être qu'on ferait mieux d'apprendre à mourir paisiblement pour bien vivre. Mmh. Donc, nous pouvons tranquillement commencer à employer la pensée plutôt que de la laisser être notre maître. Et que ce soit par rapport à aux émotions, aux pensées, à notre intention, à la soif, mettre ça en conscience. Il y a ça qui émerge, comment c'est? Je l'expose. Et bien sûr, exposer ce qui est bienfaisant, nous avons l'impression que nous le faisons, mais nous ne faisons plutôt que d'en jouir, avec le vague espoir que ça va durer. Et puis nous sommes un peu choqués quand ça passe. Et avec ce qui est douloureux, nous avons tendance à fuir, à prétendre, à venir dans la culpabilité, la critique, Alors, nous oublions combien la souffrance est précieuse. Et pourquoi est-ce que nous nous sentons parfois complètement impuissants et pourquoi est-ce que nous nous jugeons tellement? C'est que nous avons oublié que la souffrance est notre maître. Et que quand nous sommes dans l'épreuve, ok, c'est l'épreuve, ce qu'on appelle Mara, ce qui est porteur justement de mort, de maladie, de séparation, de défi. Il n'y a pas de mauvaise intention. Mara n'a pas de mauvaise intention. Mara vient nous titiller pour nous dire « Mais vas-y, grandis, développe-toi, montre cet enfant intérieur, laisse-le émerger. » Et c'est bien joli de l'entendre dire, mais ça ne sert pas à grand-chose. Il faut l'expérimenter. Et en retraite, on peut expérimenter cette rencontre avec la douleur ou la souffrance et l'impermanence. Et peu à peu, il y a une réalisation que je ne suis pas tout ça, je ne suis même pas la conscience. La conscience aussi, elle émerge, elle a un temps de vie, elle passe. Et bien sûr, pour le moi, ça fait peur, parce que le moi se vit uniquement en certitude. Et c'est pour ça qu'il faut avoir beaucoup de bienveillance, de patience, de gentillesse pour lui montrer, mais non, tu verras, tu as assez bien, tu peux lâcher. Ce ne sera pas moins bien, ce sera mieux. Et peu à peu, il comprend. Les zen, je vous dis comment les zen le disent. Le vu, le vide, c'est l'intelligence inconsciente de tout l'organisme, et en particulier de la sagesse innée du système nerveux. Le vu, c'est le non-effort, la non-action. C'est une combinaison de cette sagesse avec la quête de la moindre résistance dans toutes nos actions. Ce n'est pas le simple évitement de l'effort. C'est une conduite sage, sensible, pleine de soins, altruiste. C'est un engagement total à ne pas forcer et à agir pour le bien d'autrui. Amener l'expérience en conscience pour faire émerger la sagesse innée dans le système nerveux, dans le but de lui permettre de se manifester dans l'acte. Vous voyez comment c'est pareil que quand Jésus meurt sur la croix. C'est pareil. L'inaction. Je lâche. Et il n'y a pas besoin de faire mourir le corps, ça se passe maintenant. Le Christ ne demandait pas qu'on allait tous se faire crucifier. Il a juste donné une image pour que nous puissions maintenant faire ce retournement où nous lâchons toute résistance pour voir combien, dans cette confiance totale à la souffrance, il y a la résurrection. Je me rends compte d'un pouvoir à l'intérieur qui est plus qu'atomique. Donc notre travail, c'est pas tellement d'être ceci ou cela, mais c'est d'être. Et de chercher comment inclure, comment accueillir, comment être compassionné aussi, parce que la vie est difficile, parfois, très difficile, et que nous ne savons pas que l'épreuve est toujours à la hauteur de ce que nous pouvons développer à l'intérieur. Je vais finir avec une parole d'Eti Hillezone que certains ont sûrement déjà entendue et qui est, je trouve, aujourd'hui où il y a le corona, où c'est quand même, tout est quand même très anxiogène, on sent bien que ça ne va pas aller vers le mieux. On perd pied, l'humanité perd pied, elle ne sait plus trop où elle va, elle cherche dans tous les sens, mais... Il n'y a pas beaucoup de sens dans tout ça. Comment, avec tout ça, on peut vraiment juste maintenant être dans la gratitude et l'amour. Et c'est la seule chose que nous ayons toujours. Eti Hillezone, c'est cette femme qui a choisi de rester pendant la dernière guerre mondiale dans les camps de concentration à Amsterdam et de ne pas fuir aux États-Unis. Elle aurait pu. Mais elle a choisi de... Elle n'aurait pas pu, en fait, fuir, parce que ça aurait été trop dur pour sa conscience. Et elle dit, la somme de souffrances humaines qui s'est présentée à nos yeux durant les 6 derniers mois et qui continue de s'y présenter chaque jour dépasse largement la dose assimilable par un individu durant la même période. C'est pourquoi on entend répéter autour de soi sur tous les tons « Je ne veux pas penser, je ne veux pas sentir, je veux oublier le plus vite possible. » Il y a là un grave danger. Ce qui importe en effet, ce n'est pas de rester en vie, mais comment on reste en vie. Quand on n'a pas en soi quelque chose de très fort qui nous porte à considérer que l'extérieur des choses ne fait pas le poids par rapport à l'intérieur. Alors on a tout lieu de sombrer ici dans le désespoir. Je voulais juste vous dire, la détresse est grande. Et pourtant il m'arrive souvent le soir, quand le jour est coulé à sombrer derrière moi dans les profondeurs, de longer d'un pas souple les barbelés et toujours je sens monter de mon cœur. Je n'y puis rien, c'est ainsi. Cela vient d'une force élémentaire. la même incantation. La vie est une chose merveilleuse et grande. On peut rester quelques minutes en silence.